Hey! Êtes-vous fans du groupe The Lumineers? Le 23 septembre, notre vedette locale Jesse McCormack jouera au Rialto Hall dans le cadre du lancement de son nouveau EP After the Glow, paru sur Secret City Records. Une prestation dont les billets s'envoleront très vite à coup sûr. Venez le voir avant qu'il ne se produise à guichet fermé au Festival de Jazz. Une chance unique de vivre l'expérience underground de Pop Montréal. Pour obtenir des billets et plus de renseignements, rendez-vous sur le site popmontréal.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Bonsoir, bienvenue à Pop en stock. C'est le Pop 110 ce soir. Je m'appelle Hélène Lorrain et ce soir, on explore IKEA, les magasins IKEA. Tout le monde, je pense, chez eux a au moins un article de meubles IKEA. Moi-même, j'ai fait un petit... j'ai regardé comme mon appartement et j'ai des bibliothèques, des tables de nuit et une commode IKEA. Il fut une époque où j'avais vraiment... comme 80% de mes meubles, c'est du IKEA. Voilà, peut-être une dizaine d'années, là, à peu près. Ce soir, avec moi, j'ai Sophie Croteau.
C'est moi.
Et Rachel Hippolyte.
Allô!
Deux habitués du podcast Pop en stock, dis-je. Et j'ai des petites questions pour vous, un quiz IKEA. Sophie, où est situé le plus gros magasin IKEA?
Oh, quelle bonne question. J'imagine que ça doit être en Suède.
C'est... en Corée du Sud, dans la région de Séoul, et là, je vais essayer de prononcer comme il faut la municipalité en question, Gwangmyeongyang. Ah, je suis désolée. je me sens vraiment inepte à cette prononciation.
Mais à quoi ça sert un plus gros magasin IKEA? Parce qu'il y a juste un certain nombre d'articles IKEA qui existent.
Fait que... il y en a plus de 12 000!
Ouais,
ça faisait partie de mes
tous là. Fait, là.
Ça doit être... peut-être qu'il y a un gros restaurant.
Il y a plus de staging, oui.
Ouais. C'est une bonne question. Et Rachel, la question pour toi, c'est dans quel pays IKEA s'est installé? IKEA s'est installé en deuxième.
Parce qu'on s'en après la Suède,
oui,
bien
après
sûr.
La Suède.
Le Danemark.
Vraiment pas loin, c'est la Norvège en 1963, donc le voisin immédiat de la Suède. IKEA a été fondée en 1943, donc durant la Deuxième Guerre mondiale, par un monsieur qui avait 17 ans à l'époque. Qui s'appelle Ingvar Kamprad, qui est toujours vivant, qui a aujourd'hui 90 ans, c'est un des personnes les plus riches au monde. Son net worth, selon Wikipédia, change énormément. C'est entre 40 milliards et 3 milliards, mais bon.
Bon.
On n'est pas à un milliard près, là,
ouais, c'est ça,
il me semble.
Ce sont des détails, voyons.
Mais aussi, qu'est-ce qui est assez remarquable dans son cas, c'est que c'est une personne qui est apparemment extrêmement cheap. Donc, il va recycler ses poches de thé. Il voyage toujours en classe économique. Il va lui-même chez IKEA et il prend comme les menus économiques chez IKEA. Comme il n'est pas du tout dépensier, donc.
Ben, il est dans la way of life de IKEA.
Oui, c'est
bien.
Ça, ouais,
c'est
ça.
Soyons... il respecte encore qu'est-ce qu'il y a. Ses principes,
oui,
ses
tout
valeurs.
À fait, exactement. Le nom de la compagnie provient d'un acronyme, donc Ingvar Kamprad, qui est le fondateur, donc I-K, Elm Tarud, je crois que c'est comme ça qu'on prononce ça, qui est la ferme où il a grandi, dans la municipalité de Agunnarud. Donc, I-K-E-A, IKEA, tout simplement. C'est aujourd'hui une des marques les plus connues au monde. Ça a commencé comme une entreprise de vente par courrier. Et IKEA a commencé à vendre des meubles en 1948, donc 5 ans après la fondation de la compagnie. Et le premier magasin a ouvert en 1958, donc 10 ans après la spécialisation dans les meubles. Il y a 384 magasins aujourd'hui qui sont dans 48 pays. 12 000 produits, comme je disais, à tout le moins sur le site web. Et le site web est l'endroit où il y a le plus d'objets IKEA. Et IKEA, lui seul, est responsable de la consommation de 1% du bois pour production commerciale dans le monde.
C'est le troisième plus grand consommateur de bois, après Home Depot et...
Home Depot?
Lowe's. Ouais.
Hein? Ouais. Je savais pas. OK, wow.
Merci.
Hein? Oui, absolument.
C'est dans mes scandales.
OK, IKEA. Oui, ouais, on va parler de scandale IKEA. Les designs d'IKEA, vraiment... archi connu. C'est des lignes simples, épurées, souvent dans des tons de bois clair, le plaqué bouleau ou le pain. Et c'est souvent associé aussi à une espèce de simplicité écolo qui est plein de lumière nacrée, de beauté, bien entendu. IKEA aussi est devenu un symbole de la Suède, ne serait-ce que par les couleurs des gros magasins. On voit du bleu et du jaune absolument partout, mais aussi par l'épicerie suédoise qu'on voit dans les magasins, les petites boulettes suédoises qui sont vraiment très sucrées, les desserts suédois, entre guillemets, genre, je sais pas qu'est-ce que suédois
là-dedans. La tarte aux amandes. Ouais, ouais. Oh mon Dieu.
Les faux livres en suédois dans les bibliothèques du showroom.
Oui, les livres de recettes maintenant aussi. Cuisine suédoise, oui. Ouais, ouais.
Donc, quand on rentre dans une IKEA, on est supposé rentrer dans une petite partie de la Suède et on se sent tellement bien là avec tous ces beaux meubles. Mais la Suède n'est pas ce paradis auquel on pense et c'est de ça dont tu veux nous parler, Rachel.
Mais non, ce n'est effectivement, c'est loin d'être l'Éden. Tu parlais justement de l'image qu'on a, que IKEA nous projette à travers les meubles. Il y a l'image que la Suède projette à travers sa musique. La Suède est pas justement un paradis pour de multiples raisons. Entre autres, une des grandes images que la Suède aimait beaucoup se projeter d'elle-même était le fait que ce soit un pays extrêmement accueillant. Déjà, lors des grandes guerres, ils ont accueilli énormément de réfugiés, allemands, entre autres. Plus les années avançaient et les autres guerres et conflits civils ont avancé, plus la Suède a accueilli des immigrants. Entre autres, c'est la Suède contient une des plus grandes communautés syriennes d'Europe.
Je savais pas ça. Dans ma tête, ils sont très blancs et blonds.
Puis l'année dernière, il y a eu énormément de réfugiés qui sont arrivés. Il y en a eu 160 000 en 2015 pour un pays quand même de 9 millions d'habitants. Mm-hmm. C'est énorme, là. Proportionnellement, c'est l'endroit qui en a reçu le plus. D'accord. De manière proportionnelle, bien sûr, évidemment.
Donc, il y a une image... Donc, la Suède a cette image de pays accueillant et ce serait vrai selon les chiffres.
Selon les chiffres, oui. Selon les faits et la façon dont ils sont intégrés...
Aha! Moyennement. À quelque part.
Il y a toujours une pogne. Un des premiers ministres, un des anciens premiers ministres conservateurs, Fredrik Reinfeldt, disait que c'était une super puissance humanitaire, tu sais, vu les chiffres. Mais bon, les montées des extrêmes droites affectent l'Europe en général et la Suède n'est pas épargnée par ça. Il y a eu un parti qui est très proche des mouvements néo-nazis, qui est devenu le troisième parti à l'Assemblée nationale et qui a recueilli 10 % des voix.
La dernière élection?
La dernière élection.
V'là quelques années.
Ouais.
Quel point,
okay. V'là quelques années, donc, qui a obtenu 10 % des voix. Et ce même parti-là, en tout cas, ses essaims municipaux et régionaux, ont obtenu entre 15 et 20 % dépendant des régions et des villes, quand même.
Je vais en profiter pour glisser un autre scandale. Je pense que je vais faire ça, je vais ponctuer l'émission de scandale.
Ah, c'est bon
scandale
ça.
IKEA, d'ailleurs, parlant d'allégeance nazie, le fondateur de IKEA était, autour de la Deuxième Guerre mondiale, était un recruteur pour un groupe nazi de Suède.
Oui, j'avais lu ça, au moment même qu'il a fondé IKEA.
Oui.
Ah ben, toi?
Une petite controverse qui le lie à ce mouvement-là, mais qui est présent en Suède, donc c'est peut-être pas tant une surprise pour eux là-bas, là.
Non. Et j'ai lu récemment... j'ai lu que récemment, il a dit du chef de l'époque, qui pense toujours que c'est un grand homme, qu'il va jamais renier le chef de ce parti-là.
De ce parti du Suédois.
À l'époque, oui. Mm. Ben, à l'époque, aujourd'hui, c'est sûr que c'est un autre chef.
Pour des raisons évidentes.
Mais que, mettons, ce serait l'équivalent un peu d'Adrien Arcan ici au Québec, mais tu sais, qui va toujours penser que, par exemple, Adrien Arcan, c'est tout le temps un grand homme.
Oh, oui.
Oups, ça.
Oh, d'accord.
Oui.
Oui. Mais tu le disais, Sophie, tu sais, les mouvements néo-nazis en Suède ont été là depuis des années. Bon. Puis donc, vu ces tensions qui ont augmenté, la montée de l'extrême droite dans les intentions de vote, ces événements dont je vous ai parlé, et la capacité, comme je vous disais, la Suède qui a reçu énormément d'immigrants pour le peu de population qu'elle a, ben il y a eu, selon Libération, dans un article de janvier 2016, il y a eu l'expulsion de 60 à 80 000 migrants de la Suède.
Donc, ils ont enquillé beaucoup, mais ils en ont rejeté beaucoup aussi.
Oui, exactement. Donc, tout ce côté controversé de « oui, effectivement, on les accueille ». Mais...
On les garde pas longtemps.
On les garde pas nécessairement. Surtout ceux des dernières années, ils ont été gardés moins longtemps.
J'avais déjà entendu, peut-être que tu vas répondre à cette question-là, mais j'avais déjà entendu, là, peut-être une dizaine d'années, donc avant l'exacerbation des tensions telles qu'on les connaît aujourd'hui, que c'était super difficile d'avoir la citoyenneté suédoise. Tu peux être là depuis très, très longtemps, puis ils vont pas te donner la citoyenneté suédoise malgré tout.
Non, c'est assez compliqué. En fait, c'est très facile de rentrer en Suède et d'avoir sa résidence et d'avoir un permis et d'avoir des visas. Mais avoir sa citoyenneté, c'est beaucoup plus laborieux.
Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des papiers.
Il y a des papiers, mais c'est moins compliqué, on va dire ça comme ça, mais avoir sa citoyenneté, ça l'est beaucoup plus.
OK.
Tout à fait. Mm-hmm. Là, ça, c'est un des points quand même sur la capacité d'accueil, l'image d'accueil que la Suède veut se donner, qui a aussi cerclé Il y a quand même certains accros. Il y a aussi la question économique. Comme on le disait, la Suède, qui est réputée comme étant un endroit social...
Avec des politiques de social-démocratie depuis toujours, apparemment. Là.
Ben oui, absolument. Puis qu'on vante le modèle suédois et que nos partis de gauche vantent énormément ce modèle.
Un autre pays nordique comme nous.
Exactement! Et je nomme pas de parti, mais bon. J'ai un de mes amis qui étudiait en administration publique qui disait à la blague que c'était les arguments ad scandinavian, tu sais.
Juste dire que ça vient de la Scandinavie.
Exactement. C'est un argument d'autorité parce que ça vient de la Scandinavie, tu sais. Une social-démocratie avec des grandes mesures peut totalement cohabiter avec un néolibéralisme, en fait. Mm-hmm. C'est la Suède, le nombre de milliardaires suédois est très élevé, on rappelle.
Don Monsieur Ingvar Kamprad.
Don Monsieur.
Ben, il habite en Suisse maintenant.
Quelle surprise.
Pourtant, le taux d'imposition des entreprises suédoises est relativement bas, en fait. C'est genre 22 %. Wow. C'est pas énorme.
Il n'y a pas un scandale là-dessus?
Non.
Okay, parce qu'il y a beaucoup... IKEA... Peut-être. J'ai lu dans les petites recherches que j'ai faites qu'il y avait beaucoup de sociétés qui s'occupent d'IKEA et qui sont toutes enregistrées dans des pays, dans des paradis fiscaux.
Malgré le taux d'imposition assez bas, qui est de 22 %, comme je dis, les entreprises, effectivement, beaucoup de ces entreprises sont enregistrées ailleurs en Suède. La même chose pour H&M, entre autres, aussi. Autre grand milliardaire suédois.
Vêtements cheap, oui.
n'est-ce pas? Il y a 14 milliardaires en Suède. Bon, 14, on s'entend que c'est...
Milliardaires, pas millionnaires. Milliardaires.
Oui.
C'est comme c'est no ça. Game. Là.
Exact. Il y a 14 milliardaires en Suède. Proportionnellement, il y a plus de milliardaires en Suède qu'aux États-Unis.
Intéressant. Mm-hmm.
Évidemment, on s'entend que les États-Unis est un pays de 300 millions.
C'est ça, précisément.
Et la Suède, 9. Mais tu sais, comme je le disais, les gens sont taxés. Oui, ils ont des taxes et des services qui vont avec, mais en même temps... Là où on pourrait prendre théoriquement de l'argent, et si on, dans l'idée qu'on a d'une société social-démocrate, que ça serait aussi dans les entreprises qu'on prendrait, ben c'est pas le cas.
Mm-hmm, tout à fait.
Avec ce fameux taux de 22 %. Il y a beaucoup de déréglementation. On se dit que dans une économie social-démocrate, il devrait y avoir quelque chose de...
Un filet social.
Des écarts de richesse qui sont moins graves. Oui, ce n'est pas le cas.
C'est ça, hein?
Non, ce n'est pas le cas. C'est un des pays où est-ce que le taux de pauvreté a le plus progressé depuis les 20 dernières années, en fait, qui a glissé de la première à la 14e position à l'OCDE dans les...
Les plus meilleurs pays au monde? Comme le Canada, ils ont glissé.
On sait pas pourquoi.
Dans les plus meilleurs pays au monde pour la pauvreté,
Je pense au palmarès dont Jean Chrétien...
était si fier, oui. Non, c'est ça. C'est des chiffres de 2013. Là. Dans le fond, le niveau de pauvreté relative est rendu à 9 % des chiffres de 2013. Ça reste un bon élève parce que, bon, la moyenne de l'OCDE est de 11, là, mais on s'entend que ça s'est détérioré parce que c'était à 4 % autrefois.
Mais c'est vraiment étrange, moi, je trouve, que c'est ce genre de... Comment ça se fait que tu peux laisser les inégalités alors qu'il y a une culture politique complètement différente, en tout cas, ben, qui me semble complètement différente?
C'est vraiment très étrange parce que c'est vraiment les deux cohabitent. Effectivement, ces grosses mesures sociales-là, puis aussi un libéralisme galopant.
Je suis allée en Finlande il y a quelques semaines et la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie, malgré tout ce qu'on... penser. J'ai été un peu moi-même sur le cul quand j'ai appris ça. La Suède est vraiment la reine comme la Scandinavie, puis je suis déjà allée aussi à Stockholm là, en 2005, donc là, 11 ans, mais on, juste en rentrant dans le pays, on sait qu'ils se pensent vraiment hot, genre. Puis c'est fascinant. Déjà, la Norvège s'est séparée de la Suède à la fin du 18e siècle, si je me trompe pas.
Ouais.
Et la Finlande a été un cadeau de guerre à la Russie. Parce qu'il y avait une guerre suédo-russe et c'est la Russie qui a gagné. Fait qu'elle dit « Ah, donne-moi la Finlande, Suède, ta-ta-ta ». Et c'est à partir du moment que la Finlande a été cédée à la Russie que le duché de Finlande, à l'époque, a pu commencer à s'épanouir, en 1917. C'est ça, la Suède, ben, à tout le moins dans l'histoire récente, vraiment une... C'est comme c'est le bon peuple, tout ça, mais ils ont vraiment une histoire de... crushing people around.
Mm-hmm. Effectivement.
D'être vraiment des assholes.
Aussi, autre affaire, c'est sur l'égalité homme-femme aussi, mm-hmm. qu'on pense que la Suède, justement, par rapport à ses politiques sociales et familiales.
Oui, familiales, on entend beaucoup parler, puis ils ont un ministère dédié à ça depuis super longtemps.
Exactement, et tout ça. Puis là aussi, les progrès, ben évidemment, oui, c'est un certain leader, mais c'est un leader qui perd un peu de plume. Il y a une dame qui avait fait une enquête nationale sur l'égalité homme-femme. J'essaie de savoir son nom. Cecilia Schrelin Seidegaard.
C'est
dur, hein? C'est dur. Et qui a donc été la commissaire spéciale pour cette enquête-là. Puis elle a remis une lettre, elle a envoyé une lettre à un journal danois, si ma mémoire est bonne, où est-ce que justement, au 8 mars de l'année dernière, pour parler de son enquête et dire que la Suède se dit leader, mais ne l'est peut-être pas... Et oui, en bonne position, mais il y a toujours un recul. La représentation des hommes dans le Parlement recule. Le nombre d'hommes au Parlement a augmenté lors des deux dernières élections. Encore maintenant, les emplois des femmes en Suède sont à majorité à demi-temps. Oui, les femmes sont plus éduquées.
Qu'ailleurs,
mais en même temps, leurs heures de travail ont augmenté, mais leur salaire, il y a quand même un écart de salaire important, 14 000 $ par année en moyenne, l'équivalent de 14 000 $ canadiens,
oui.
On s'entend.
Parce que les couronnes...
C'est ça, c'est 93 500 couronnes suédoises. Mais j'ai fait la conversion avant de naître.
Bravo.
Merci. Et malgré des plus grands congés, ce sont les femmes qui les prennent encore plus. Les congés parentaux sont pris seulement à 25% par les hommes, 75% par les femmes.
C'est quand même considérable, mais c'est pas 50-50.
C'est pas 50-50, bien sûr, on s'entend. Le taux, les heures ménagères, la violence sexuelle en Suède qui est énorme. Et donc, disant justement aux gens d'arrêter de se penser... le paradis de l'égalité homme-femme.
On se rappellera le scandale IKEA d'il y a quelques années quand on a appris que dans les catalogues IKEA en Arabie Saoudite, il n'y avait pas de femmes.
Ah, c'est vrai,
Invisibilité. Puis, ou dans certains autres pays, on voilait les femmes, on les cachait, on les mettait de dos, ils étaient plus habillés. Tout était photoshopé selon le pays.
Oui.
Okay. Donc, mais, c'est ça. Il
faut faire de la bonne business.
Exactement. Fait que tant IKEA que la Suède qui essaient d'avoir une bonne image, il y a des failles dedans.
Oui, absolument. Et pour prouver qu'il y a des failles aussi dans la musique suédoise, on va écouter un groupe qui s'appelle Europe avec un super succès des années 80, Final Countdown.
We'll be right back.
Moi, j'aime beaucoup ce solo-là, parce que c'est le solo qui m'a donné l'idée de faire une recherche sur le air guitar. Et oui, donc une chanson beaucoup connue pour son riff de clavier, mais moi, je pense à la guitare tout le temps. Donc, Europe avec Final Countdown. Sophie, t'es là pour nous parler du IKEA hacking.
Oui, qui est comme une grosse culture qui existe partout à travers le monde, bien sûr. Partout où IKEA est présent, cette culture-là
existe. Et avec Internet aussi.
Et avec Internet, qui a démocratisé le tout. Qu'est-ce que le IKEA hacking, premièrement? Ça va de tout. Ça va de... On prend un banc, le banc Frosta, que tout le monde connaît, qui est un rond de bois avec quatre pattes en L. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ce banc-là? On peut faire...
Est-ce qu'il y a des trous? Dans le, sur dans le siège?
Ouais, ben c'est juste un rond, puis là, il y a comme... Non, ben il y a pas de trou dans le truc, là.
Parce que récemment, il y a un tabouret IKEA qu'un Britannique a utilisé pour se laver, parce qu'il était... Il aimait pas ça être debout dans sa douche. Mm-hmm. Et puis, l'eau chaude a... Il y a une de ses couilles qui est tombée dans un des trous, et l'eau chaude a dilaté la couille, et il était coincé. Et il a dû attendre que l'eau... il a dû attendre que l'eau vire froide. Pour que sa couille rétrécisse, pis ça.
Quelle belle histoire!
C'est ça, travailler au sac de chips.
Mon Dieu!
Oh, wow!
C'est pas ce banc-là, malheureusement.
IKEA, il a interpellé IKEA sur les réseaux sociaux, bien entendu. Ben, là! IKEA a le su, là, d'une manière ou d'une autre, puis ils ont répondu comme... utiliser ailleurs que dans
la douche. Oui, c'est ça, c'est pas fait pour la douche. Ouais. C'est toujours bien important, les conseils de sécurité avec l'immeuble IKEA.
Oui, c'est vrai.
Comme il a causé le décès. Rappel de 27 millions de commodes il y a quelques mois à peine.
Oui, il y a des décès d'enfants. Hein.
Ouais, oui. Ouais. Donc, ce petit banc-là, on peut faire une table avec. Donc, si on met les pattes de l'autre sens, on peut les visser, ça fait une table. On peut mettre le couper, faire des tablettes sur le mur. On peut même faire un vélo pour enfants avec. Vous savez, les vélos en bois classiques qu'on voit. Tout ça avec ce même banc. On peut aussi prendre la fameuse commode race que j'ai en deux exemplaires chez moi, dont une laissée par les anciens locataires, qui est la commode classique en pin, trois tiroirs, un peu squishy, qui ne dure pas très longtemps. Puis, on peut la peindre, on peut ajouter des nouvelles poignées, on peut ajouter des pattes en dessous, on peut enlever des tiroirs. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé deux tiroirs, j'ai mis une tablette, là, ça, en tout cas, magique. On peut en mettre deux ensemble, se faire un grand buffet. Il y a plein de possibilités. Et le IKEA hacking, c'est un peu ça. C'est prendre un objet IKEA et le transformer pour le rendre, lui donner une nouvelle utilité ou tout simplement lui donner un nouveau souffle en le décorant et en le rendant plus personnel. Le summum du IKEA hacking, selon moi, c'est une fille qui a gagné un concours d'ailleurs qui est organisé justement en Suède. Elle a acheté une lampe.
Un concours?
IKEA hacking qui était organisé dans le cadre d'une exposition sur IKEA dans un musée. Okay. Donc elle a acheté une lampe, elle a enlevé de la boîte, elle a retourné la lampe sans la boîte et elle a fait une lampe avec la boîte.
Ah,
donc une lampe gratuite IKEA qui ne lui a rien coûté avec une boîte IKEA. C'est le summum du IKEA hacking.
Oui, wow. Je serais très curieuse de voir ça. Hein.
Pour y comprendre un peu mieux le phénomène, je vais me référer à un article qui est paru en 2010 de Jonathan Bean et Daniela Rosner, qui sont deux chercheurs en design de Berkeley qui ont essayé de comprendre le phénomène du hacking en couvrant le où, quand, quoi, comment, pourquoi.
D'accord.
si on peut répondre à tout ça. Donc, où est-ce que ça se passe, le IKEA hacking? Ben, ça se passe en ligne parce que le plus important de tout ça, c'est vraiment la communauté. Donc, parce que la communauté, ça permet de se donner des idées, de voir ce que les autres ont fait, mais aussi de se donner des skills et des connaissances techniques sur comment le faire soi-même. Parce que c'est la culture du DIY, c'est je peux le faire moi-même. Donc, des fois, on est comme, je suis pas sûr que je peux me bâtir une table moi-même, mais là, si tu vois quelqu'un d'autre le faire qui te donne des instructions claires, ça te donne la confiance. Oui, là, tu peux réaliser ton beau projet toi-même. Quand ça se passe, ben, c'est ça qui est magique aussi. C'est que ça se passe rapidement. Ça se passe chez soi. Tu n'as pas besoin d'engager un contracteur pour qu'il vienne t'installer whatever, ta nouvelle cuisine.
T'sais, est-ce que, ça, par hasard, il y aurait... Je sais qu'il y a des compagnies qui peuvent se spécialiser, qui se spécialisent dans le montage de meubles IKEA qui viennent t'aider, mais le truc officiel, bien entendu, parce que pour une raison ou une autre, il y a de la difficulté. On a de la difficulté à le monter. D'une part, il y a ça. Et d'autre part, il y a des compagnies qui se spécialisent dans le DIY, bizarrement. Ouais. Là, comme si tu veux faire un divan de palette, tu peux... Je sais qu'il y a une fille au moins à Montréal qui fait ça. Mm-hmm. Est-ce que ça existe, les deux, donc?
Une compagnie de IKEA hacking? Non. Et, ben, pas de ce que j'ai vu. J'ai pas fait la recherche exhaustive à travers le monde. Ça existe. C'est sûr que la fille qui a, je vous en parlerai un peu plus tard, la fille qui a parti le site de IKEA Hackers, elle a fait un peu d'argent là-dessus avec les revenus publicitaires de son site. Elle est pas techniquement supposée en faire, là. Je sais pas c'est quoi sa situation actuelle, mais je vous expliquerai pourquoi. Et il y a certaines personnes qui vendent sur Etsy, par exemple, des suppléments. Donc, c'est des petits kits où tu peux te tout ton nécessaire pour hacker ton meuble puis le rendre autre chose. Donc, il y a ça qui existe, mais je pense pas qu'une compagnie pourrait faire long feu. En tout cas, IKEA a l'air d'être un peu plus sensible à ça, au hacking maintenant. Donc, ils sont un peu plus, je pense qu'ils rebondiraient un peu plus rapidement, okay, puis empêcheraient peut-être que ça existe. Parce que tout ce qui est IKEA dans le nom, bien sûr, s'il y a quelqu'un d'autre qui fait de l'argent là-dessus, eux,
ils capotent.
Comme je disais, rapidement, chez soi, c'est ça. C'est pas des travaux majeurs, ça se fait vite en une fin de semaine, une soirée, quelques heures. Quoi? Ben, c'est tout. En fait, le IKEA hacking, c'est qu'on peut prendre n'importe quel item IKEA, les limites sont l'imagination, puis on peut aller du pratique en changeant juste l'utilité du meuble pour le rendre en complètement autre chose, ou juste au décoratif, comme je disais, en faisant quelque chose de super créatif qui représente notre individualité. Comment? Ben, bien sûr, avec les idées qu'on trouve ailleurs sur le web, mais aussi, ce qui est important dans le comment, c'est de conserver l'esthétique IKEA. Parce que les gens qui font du IKEA hacking, c'est du monde qui adore IKEA. C'est des fans d'IKEA. C'est du monde
qui...
C'est
pas des trolls, donc.
Non, c'est ça. C'est pas du monde qui regarde ça de haut. C'est du monde qui veulent célébrer IKEA. Donc, ils veulent aussi conserver, c'est ça, l'esthétique, mais aussi qui s'intéressent à la construction IKEA. Donc, comment les meubles sont faits? C'est quoi le tu sais, il y a tout le temps, tu sais, plus on en montre des meubles IKEA, plus on comprend, plus on devient meilleur, parce qu'il y a une certaine logique derrière. Donc, c'est des gens qui essaient de comprendre cette construction-là pour l'emmener ailleurs, puis la personnaliser. Et pourquoi, ben, ça existe, l'IKEA hacking? Ben, c'est que déjà, tout dans le IKEA incite au DIY. Quand on rentre dans un IKEA, on se promène, on découvre des choses, on est incité à agencer, on a des suggestions de salons, de ci, de ça, mais on est invité à faire nos propres créations.
Ne serait-ce que IKEA qui nous incite à monter nos meubles nous-mêmes.
Exactement. T'sais, donc, à la base, on découvre, on crée, puis on revient chez nous, puis on le fait nous-mêmes. Donc, il y a un peu de ça aussi qui incite à, bon, ben, t'as le droit de le démonter puis de faire autre chose avec. Ben, t'as le droit. Eux, ils aiment pas ça, mais il y a ça derrière. Puis, il y a aussi, bien sûr, le pourquoi. Tout est dans l'accessibilité. Les prix sont bas, mais c'est aussi les mêmes produits partout, avec le même nom partout dans le monde. Donc, oui, c'est facile. Sur un site web, tu vois, la commode, justement, Rast, ben, si t'es en Chine, elle va avoir le même nom au Canada, ben, ouais, mettons, la Chine, c'était pas le meilleur exemple, là, mais n'importe où, c'est facile de retrouver les mêmes objets exactement. Et c'est des objets utiles. Donc, à quelques exceptions près, bien sûr, c'est des produits qui sont solides. C'est des produits qu'on sait comment utiliser, comment solidifier, qu'à la base, ils sont faits pour durer dans une certaine mesure. Oui. Ça dépend lesquels, là. On s'entend que si j'ai quelques bibliothèques chez moi qui commencent à tomber en ruine, mais il y a des parties de ces objets-là qui sont solides. Une planche, oui, de bois, whatever. Donc, il y a ça aussi qui est dans le pourquoi on fait ça, c'est qu'on a de l'accessibilité à ces produits-là. Cette communauté-là, au début, était un peu éparse là, sur Internet. C'était juste des gens qui étaient comme « Oh, regardez ce que j'ai fait avec mon truc. » Puis là, c'est une fille qui s'appelle Jules Yap. C'est pas son vrai nom. C'est un nom qu'elle s'est créé à partir d'un, justement, un meuble IKEA. C'est une femme qui habite à Kuala Lumpur, en fait, qui naviguait sur Internet, puis qui a vu qu'il y avait tellement, justement, de gens qui partageaient des trucs. Donc, elle s'est dit « Je vais créer quelque chose, un site web. » C'est un WordPress au début, où les gens pourront partager leurs hacks. Donc, ça a très vite devenu extrêmement populaire. Donc, elle a acheté le nom de domaine. C'est devenu un site où, au début, il y avait juste la section axe. Donc, c'était des modifications majeures où on apportait une nouvelle fonction à un meuble, par exemple. C'était des trucs qui étaient plus ou moins difficiles, mais qui demandaient un peu de construction, si on veut. Et c'est avec le temps, parce qu'elle, elle gérait quand même les trucs qui rentraient. Ça fonctionne encore comme ça par soumission. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de contenu éditorial peut-être derrière. Elle a créé la section ideas, qui sont des bonnes idées, des choses faciles où souvent, ça va garder la même fonction, mais ça va être un peu plus décoratif. Ou, tu sais, on va avoir un meuble, puis on va le garder en tant que meuble, mais on va lui donner peut-être une nouvelle fonction, mais c'est, mettons, ah, si j'ai un meuble, c'est devenu un meuble de couture, tu sais, oui, c'est comme, okay, c'est facile, c'est juste utilitaire, un peu plus. Ce site-là, vraiment, là, c'est devenu un des sites les plus
connus. IKEA Hacking? Hackers.
Okay. Au début, c'était Hacker, là, c'est devenu Hackers avec un S pour le côté communauté. D'accord. Aussi. C'est très important. Et finalement, tout à coup, en 2014, 8 ans plus tard, IKEA se réveille et intente une poursuite pour trademark pour faire fermer le site. Eux, ce qu'ils reprochent à IKEA Hackers, c'est qu'IKEA a une certaine responsabilité envers leurs clients, une responsabilité de leur fournir des produits de haute qualité. On s'entend. Donc, le standard IKEA. Oui. Des produits, mais surtout qui respectent des standards de sécurité. Donc, ça, c'est comme une des grosses controverses d'IKEA. C'est que souvent, il peut avoir des accidents. Il y a beaucoup de rappels avec IKEA. Puis
c'est ça, plein de d'accessoires dans les kits pour permettre une meilleure sécurité.
Exact. Qu'on jette que tout personne le temps. Fait. Il n'y a jamais personne qui a vissé sa bibliothèque au mur, là, sérieusement. à part à Montréal, ça peut être utile parce que tout est croche, là, mais bon. Ou si on a des enfants, là, j'imagine que là, on le fait parce qu'on veut vraiment pas qu'ils meurent écrasés par un meuble IKEA. Mais c'est sûr que si on commence à modifier un meuble, ben là, toutes ces règles de sécurité-là
deviennent nulles et non devenues.
Exactement, sauf que ça reste un meuble IKEA. Oui, puis les
une responsabilité civile.
Exactement, qui est attachée au nom. Puis ça, c'est sûr que ça crée une confusion avec le branding. Ça s'appelle IKEA Hackers, on s'entend. Ça utilise les mêmes couleurs et tout. Donc, il peut y avoir, oui, chez des gens là, qui comprennent pas, qui ont moins d'éducation, là, ils pourraient confondre les deux. Comme le journal de Montréal et le journal de Montréal. On s'entend que ce qui les gossait surtout IKEA, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui faisait du profit sur leur nom.
On s'entend.
On s'entend qu'il y a aussi ça. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tout le monde, toutes les fans d'IKEA ont vraiment monté aux barricades et ont, tu sais, comme les plaintes...
Pas juste
ont
IKEA Hackers, donc IKEA.
IKEA Hackers surtout, parce que ben, c'est sûr que eux, c'était la communauté qui était le visé particulièrement, mais tout le monde s'est dit que, tu sais, ça n'a pas de sens parce que, tu sais, vous portez atteinte exactement à ce qui fait votre marque. Parce que IKEA, il prospère parce que les gens adorent IKEA, parce que les gens retournent chez IKEA, là, ils veulent du IKEA, c'est comme Apple, tu sais, quand t'es addict à IKEA, je me rappelle tout IKEA, mon premier souvenir lié à IKEA, c'est bien sûr Fight Club, quand il parle que, tu sais, il se crosse devant un catalogue IKEA, on s'en parle. Puis il y a de ça, tu sais, c'est comme, quand t'adhères, puis si t'as du Apple, t'as juste du Apple. Donc, le IKEA Hacker, c'est un site web où on partage notre amour de IKEA, puis ça génère de la discussion autour du produit, fait que pourquoi est-ce qu'on empêcherait ça, tu sais, ça, c'est comme, t'sais, vraiment, là, c'est tuer les hardcore fans de IKEA en tuant ce site web-là. Donc là, revirement de situation, 24 heures après qu'il ait obligé le site web IKEA Hackers de fermer, qui a revu sa position et ils ont décidé de laisser tomber la poursuite. Mais la seule condition, c'est qu'ils ne vendaient pas de pub qui pourrait générer du profit avec le nom d'IKEA.
Ah, d'accord, OK.
Donc,
c'est un compromis.
On les comprend. Mais là, ce qui est fascinant, c'est que depuis ce moment-là, IKEA a vraiment embrassé la culture du hacking à l'interne, donc à l'intérieur. Donc, je pense qu'eux-mêmes essayent de l'implanter pouvoir...
If you can beat them, join them.
Exactement. Ouais. Donc, la première chose qui est apparue, c'est qu'ils se sont rendus compte que pour eux, c'était un outil d'apprentissage pour leur propre designer. Donc, ils ont commencé à faire des séances de hackathon à l'intérieur de la compagnie. Donc, avec les équipes de design où on les emmène à modifier les produits de leurs collègues pour créer autre chose avec. Donc, il y a ça sur les bureaux de IKEA, dans les bureaux des designers, encore une fois, il y a des photos, des hacks qui ont été faites par des gens sur le web qui sont affichés un peu partout pour générer des idées. Ils se sont rendus compte que en fouillant, en apprenant de ce que les gens font, ils apprennent c'est quoi les réels besoins dans les maisons. Donc, pour l'année d'après, ça leur permet d'adapter leurs produits parce qu'ils voient, OK, c'est ça l'article le plus populaire sur le site de IKEA Hackers. Ben, nous, on va créer ce produit-là l'année prochaine, tu sais. Donc, on le voit souvent, c'est facile d'observer la tendance aussi quand on suit ce site web-là que moi j'adore, là, d'ailleurs. Tu sais, vous googlez les meubles que vous avez, puis là, tout à coup, il y a comme un monde de possibilités qui s'ouvre à vous. Et ça a vraiment culminé avec le Space 10 qui est ouvert à Copenhague il y a quelques années, ça fait vraiment pas très longtemps. C'est un centre, un hub de recherche qui a pour but de faire de la recherche sur le futur de la vie urbaine. Les possibles défis qui s'en viennent avec le futur des gens qui habitent en ville et de comment on peut trouver des solutions. C'est-à-dire créer des opportunités pour vivre le futur de façon améliorée et durable. Donc c'est ça l'objectif de ce centre-là. Et comment ça se traduit, c'est qu'il y a appelle des artistes, des designers et des technologistes. C'est un mot que je n'avais pas vu avant sur le web. Ils font une série de laboratoires qui explorent tout le temps des défis, donc des défis de la vie urbaine. Et ces gens-là sont invités à faire des brainstorms, mais aussi il va y avoir des conférences, il va y avoir des résidences, des collaborations entre des artistes, il va y avoir des expositions, des événements. Donc c'est vraiment un centre, là, tu sais, comme très hipster, là. Tu sais, vous regardez les photos, là, c'est comme, on se croirait dans le Mailand. Mais c'est à Copenhague. arnaque, fait que c'est encore pire, là. Et puis vraiment, tout le noyau de ça, c'est le hacking. Donc, tous les meubles qui sont fabriqués dans ce hub-là, c'est tous des hacks, tu sais, qui ont été faits avec plein d'objets. Là, je voyais un immense pouf qui avait été fait avec, comme, tu sais, les espèces de tapis fluffy, vraiment beau, là. C'était comme un immense pouf, là, de comme 2 mètres de long, puis c'était comme, en tout cas, ça avait l'air super confortable, mais tu sais, c'était clairement fait avec juste
d'autres
des
affaires,
tapis. Donc, oui, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez le Democratic Design Day qu'il y a en Suède, c'est qui s'est organisé par IKEA, et il y a eu la 3e édition en juin, ça c'est live streamé, donc vous pouvez aller voir ça, c'est vraiment intéressant. Puis pendant cette journée-là, IKEA va parler de ses recherches qui sont en cours, de ses nouveaux designs, mais il y a aussi des gens, des designers qui vont apporter des idées qu'ils ont, qui seront pas nécessairement adoptées par IKEA, mais qui vont être étudiées, mettons, pour la porter si financièrement c'est viable. Et étrangement, en 2015, ben il y a des designers qui ont proposé 2 trucs. Le premier, c'est le Hack Kit. Donc, c'est une petite boîte. Parce que pour eux, leur idée, c'est que tu restes sur le site d'IKEA et là, tu verrais tout d'un coup toutes les possibilités qu'un meuble offre, toutes les possibilités de hacking que le meuble offre. Okay. Et tu pourrais acheter ta petite boîte pour hacker ton meuble. Donc, si tu as déjà ça, tu achètes la petite boîte. Puis là, mettons, tu peux transformer ton banc en chaise parce que là, tu achètes la petite boîte ou tu as un dossier pour transformer le meuble. Mais ça existe, c'est ce que j'ai expliqué qui existe déjà un peu sur Etsy en ce moment. Les gens font déjà ça. Donc, essaie de peut-être voler ce marché-là qui existe au DIY. Ouais. Et l'autre truc qu'ils ont proposé, c'est le Swap Program, où tu pourrais rapporter tes vieux meubles IKEA et les échanger contre des points que tu pourrais dépenser, dans le fond, dans le Second Life Store, où il y aurait d'autres meubles usagés que tu pourrais racheter. Donc, avec ça, ils empêchent vraiment, pas nécessairement le hacking, mais tout ce qui est de la vente d'usagers sur Kijiji, Craigslist. Donc, les gens... qui veulent faire des hacks, ben c'est ça. Tu sais, quand moi, j'ai voulu changer mes pieds de lampes, tu sais, les espèces de lampes à 10 piastres, je m'en rappelle plus exactement le nom, je pense que c'est Trillium, tu peux les changer vraiment facilement en pied de micro. Quand j'ai voulu faire ça, ben j'allais acheter sur Kijiji une dizaine de lampes, là, vraiment pas chères. Donc, eux, ils essayent de contrer le hacking en proposant ça. Ça, c'est des idées qui ont été proposées. J'imagine, comme je disais, que IKEA va les étudier. Il y a rien de fait encore, mais ça s'est dit dans ces journées-là.
Donc, la récupération néolibérale capitaliste d'initiative grassroots.
C'est ça, mais je trouve que ça représente bien tout ce que tu disais par rapport au libéralisme contre culture un peu plus de gauche. T'sais, on est très ouvert, on veut du cheap, on veut de l'accessible, une démocratisation des meubles, du confort, du design, mais là, en même temps, on veut pas que quelqu'un d'autre fasse l'argent nous-mêmes, on va l'exploiter pour notre propre profit. T'sais.
C'est vraiment étonnant, oui et non, en même temps. On pense qu'IKEA est tellement le fun, mais tu sais, c'est des petits ratoureux. Là,
c'est des ratoureux. Ben ouais. Oui.
Et parlant de ratoureux, on va écouter une autre chanson suédoise. Gimme, gimme, gimme de ABBA. Et ABBA, ça pour moi, c'est un groupe tellement... C'est ça, ils sont ratoureux dans le sens qu'ils nous manipulent puis ils nous font aimer leur musique plus que tout. C'est un de mes groupes préférés.
Happens
Puis c'est vraiment le fun d'écouter du Abba Live, c'est rare. Ils sont tellement des pros du studio. Je pensais que ça allait être comme le playback. Mais non, c'est la vraie musique. c'était très agréable. Moi, je parlais un peu de la circulation autour d'IKEA. Donc, IKEA entre l'urbanité et la banlieue, entre la ville et la banlieue à tout moment. Ça fait plusieurs années que je suis allée au IKEA, mais à une certaine époque de ma vie, je suis vraiment beaucoup allée. Et je n'ai toujours pas de voiture, donc ça voulait dire que c'était vraiment une sortie mère-fille. Et on allait tout le temps au IKEA de Boucherville.
Ben, c'est ça que j'allais dire. T'étais pas loin de ce IKEA-là.
Non, mais attendez, là. Celui de Montréal, c'est le chaos, là.
Il y a ça, un. Deux, non, j'ai déménagé quand il a ouvert en 2003. J'étais déjà à l'extérieur. J'étais déjà à Montréal et mes parents étaient déjà à Repentigny. Donc, okay. Ma mère se tape comme Repentigny, Montréal, Montréal, Boucherville, tu sais, pour aller au IKEA à Boucherville avec moi. Mais elle aime toujours ça, retourner dans cette bourgade. Donc, ça lui fait bien plaisir. Et oui, le Montréal, le IKEA de Cavendish est vraiment une...
C'est un anti-IKEA. Tu sais, les plafonds sont bas, il fait noir. Ouais, c'est très beau. C'est bizarre. Oui. Non.
J'ai remarqué très rapidement que les magasins IKEA sont toujours situés soit en banlieue ou soit loin des centres urbains, parce que Cavendish, on va dire que c'est Ville-Saint-Laurent, là, c'est pas... C'est pas dans le centre de l'action, non. Là. Et qui sont invariablement situés à côté d'une autoroute. Donc, c'est pas sur la rue Saint-Denis, c'est tout le temps à côté d'une autoroute. Partout, si on regarde aussi le catalogue canadien IKEA, on voit les espèces de cartes là, des autres magasins IKEA à travers le pays, et c'est tout le temps à côté. On voit tout le temps comme un signe d'autoroute. Et aussi, ça, il y avait ça d'un côté, et de l'autre côté, j'ai remarqué, comme je l'ai dans des parties, chez des amis, et j'ai remarqué que à peu près tout le monde a au moins un meuble IKEA. Et là, je me suis posé la question, mais comment ils font, mes amis, tu sais, comme moi, c'est ça, moi j'ai ma maman, mais eux autres, est-ce qu'ils vont au IKEA avec leurs parents? Est-ce qu'ils se tapent des trajets d'autobus et de métro à n'en plus finir? Est-ce qu'ils louent des voitures? Comment ils font pour aller au IKEA puis revenir à Montréal? Ou aller à Cavendish et revenir proche de la ligne orange, là, parce que c'est pas près, ou la ligne verte. Donc, c'est un peu ces questions-là que je veux poser ici aujourd'hui, et aussi par rapport aussi au catalogue. Dans les magasins IKEA, comme Sophie, tu l'as remarqué, il y a des mises en scène de salons, de cuisine, qui sont entièrement composées selon des meubles IKEA, selon une espèce de lifestyle IKEA. Donc, vraiment des espaces microscopiques, là. Souvent, ils se vantent même de pouvoir faire quelque chose de très élaboré, mais...
C'est le thème du catalogue cette année, d'ailleurs.
Des petits espaces, OK, je l'ai pas lu, mais souvent...
Le catalogue anniversaire.
Oui, 40e anniversaire Canada, c'était oui, j'ai vu ça. Mais dans les anciens catalogues, à tout le moins, là, le plus récent, je l'ai pas consulté à ce point-là, mais c'est souvent des grandes maisons, des grandes cuisines, avec une vie familiale là, qui a l'air absolument épanouie, là. Peut-être pas en Arabie Saoudite, mais ça a tout le temps l'air d'être la famille parfaite. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait qu'il y a des jeunes urbains que IKEA attire par des catalogues de banlieue qui retournent dans les... qui vont dans les magasins qui sont eux-mêmes situés en banlieue pour retourner chez eux en ville avec des meubles de ville, entre guillemets. Donc, c'est quoi cette circulation-là? Ça serait assez simple de trouver peut-être des réponses, là, tu sais, d'aller voir des études de marché pour voir comme qui va magasiner IKEA et où c'est que ces personnes-là habitent. Mais je veux quand même parler plus de la culture de circulation d'IKEA. Il y a deux anthropologues, Benjamin Lee et Edward Lee Puma, dans leur article Cultures of Circulation, The Imaginations of Modernity, qui ont introduit ce concept-là de culture de circulation. Et là, j'ai fait une petite traduction. Donc, il y a peut-être une autre traduction officielle qui existe, mais je l'ai faite aujourd'hui. Puis je pense qu'elle est correcte. Donc, je cite Benjamin Lee et Edward Lee Puma. « Si la circulation est là pour servir un construit analytique pour l'analyse de la culture, elle doit être conçue comme plus que simplement le mouvement de personnes, d'idées, de marchandises d'une culture à une autre. » À la place de cela, des travaux récents indiquent que la circulation est un processus culturel avec ses propres formes d'abstraction, d'évaluation et de contraintes qui sont créées par les interactions entre des types de formes circulantes et les communautés interprétatives construites autour de ces formes. Ce sont ces circulations structurées, une belle allitération ici, ce sont ces circulations structurées que nous identifions comme des cultures de circulation. Donc, c'est quand même une situation... citation qui est assez complexe. Pour la reprendre dans des mots plus simples, la circulation, c'est une performance. Donc, la circulation réalise des choses. Elle réalise des choses qui, notamment par les interactions des communautés interprétatives qui perçoivent et lisent les objets en circulation, comme par hasard les meubles IKEA, et qui perçoivent, dis-je, différemment, ce qui forme les cultures de circulation. Et là, j'ai pris l'exemple des... Ça m'a fait penser aux maisons Bonneville, qui sont des championnes des banlieues et emblèmes d'une espèce de courant pépère de bungalow très tranquille. On les voit sur le bord de la Vin, un peu plus loin que l'IKEA, justement, là, à Belle-Oeil. Et maintenant, ils présentent des maisons, les maisons Bonneville, c'est des maisons en ligne modernes, épurées, qui sont très similaires au design des meubles IKEA. Comment interpréter justement ce mouvement-là par rapport aux cultures de circulation? Et aussi, le quartier 1030, que les Montréalais se font vraiment un plaisir de dénigrer, c'est présenté souvent comme par eux-mêmes, à tout le moins, comme un quartier branché, urbain. Donc, je me pose vraiment la question de la fluidité entre la banlieue et la ville. Est-ce que ça se pourrait que la banlieue devienne de moins en moins banlieue et de plus en plus ville, et la ville devienne de plus en plus banlieue, de cette espèce d'espace symbolique flou qui est de plus en plus partagé finalement par les grandes agglomérations. IKEA, je pense, peut être un début de piste de réponse pour penser à cette espèce de porosité entre banlieue et ville, où justement où les deux milieux se confondent et qui est accompli par la circulation, plutôt par la culture de circulation. Et voilà, wow. Je termine là-dessus. Wow! C'est vraiment une des chroniques les plus académiques que j'ai faites à Pompstock. On va se laisser avec une dernière chanson suédoise, Dancing on My Own de Robin, qui est une artiste, une musicienne que j'adore personnellement, et on va terminer là-dessus. Et vive la Suède!
Vive Ikea! Love you.